Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Bec FM pour les rendez-vous de la Nièvre. Chaque troisième jeudi du mois, on vous présente les politiques menées par le conseil départemental. Alors, avec nous ce soir, je reçois Blandine Delaporte, vice-présidente en charge des transitions du Fonds d'innovation et d'investissement territorial et du dialogue avec les habitants. Bonsoir et bienvenue.
Merci, bonsoir.
Et puis avec nous également, Geoffrey Darmancier, vous êtes directeur du développement territorial en charge de la transition donc au conseil départemental. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Donc en avril dernier, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, connu sous l'acronyme GIEC, est sans équivoque, les conséquences du changement climatique s'accentuent rapidement et seront irrémédiables. Alors, peut-être une première question. La Nièvre n'échappe pas malheureusement à ce constat et des signes sont déjà tangibles sur ce bouleversement sur le territoire nivernais. En 2019, la collectivité a choisi d'organiser un séminaire en mobilisant l'ensemble des acteurs du territoire pour adapter le territoire au dérèglement climatique. Alors, pourquoi avoir initié un tel séminaire ?
Alors, ce séminaire, il a été fait suite à deux étés très chauds et très secs. Notamment l'été 2018 qui a été absolument catastrophique, l'été et l'automne d'ailleurs qui ont été absolument catastrophiques pour les éleveurs qui avaient du mal à faire paître leur troupeau tout simplement parce que l'herbe ne poussait plus, l'herbe était grillée dans les prairies. Et donc le président du département à l'époque, Alain Lassu, avait demandé à ce qu'on étudie avec les partenaires de l'agriculture quelles pouvaient être les solutions pour adapter les exploitations agricoles au changement climatique. Et puis, en faisant le bilan de ces deux années de sécheresse et de chaleur, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que l'agriculture qui avait été touchée, c'est-à-dire qu'il y avait les routes, les infrastructures, les logements. On avait des problèmes de retrait gonflement d'argile, donc des fissures qui se faisaient dans les bâtiments. On avait évidemment des milieux naturels qui avaient souffert. Et donc, finalement, tout un tas de sujets sur lesquels le département est compétent. Et donc, on a choisi d'initier ce séminaire avec de nombreux partenaires pour voir en quoi notre département était vulnérable au changement climatique et en particulier à l'augmentation des températures.
Donc, du coup, ça a donné lieu à un diagnostic précis, je suppose, sur le territoire ?
Oui, ça a donné lieu à un diagnostic. Et effectivement, les températures augmentent, elles vont continuer d'augmenter. La pluviométrie est très perturbée, c'est-à-dire qu'en fait, tout au long de l'année, il y a le même nombre de millimètres d'eau qui tombent.
Mais pas aux bonnes périodes.
Pas aux bonnes périodes et non. Surtout concentré sur certains mois. Donc la pluviométrie ne s'étale pas dans le temps comme ça le faisait précédemment. Donc du coup des soucis de sécheresse qui sont accentués par ces pluviométries perturbées.
Notamment sur les forêts avec le stress hydrique, hein, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc ce qui se passe sur les forêts, c'est que l'augmentation des températures, la sécheresse a d'ores et déjà des impacts puisque les arbres vont puiser de l'eau dans leurs réserves, peuvent survivre à un été, deux étés, tout en ayant des conséquences sur leur santé assez graves et donc sont plus vulnérables ensuite aux ravageurs. Et donc aujourd'hui, on a des problématiques sur l'ensemble du département et principalement dans le Morvan, avec des dépérissements de peuplements entiers et donc des coupes dites sanitaires.
Oui, c'est ce qu'on peut voir actuellement dans le Morvan, où il y a tout des pans de collines qui sont abattus. Et c'est vrai que c'est choquant parce qu'on a l'habitude de voir tous ces arbres.
Oui, c'est un traumatisme à l'œil déjà. Après, ça n'empêche pas les coupes rases dans le Morvan. Hein, mais malgré tout, il y a ce que Geoffrey évoquait, c'est-à-dire les coupes sanitaires, parce qu'on a des petites bestioles qui attaquent notamment les épicéas. Et donc, pour pas que ça se propage plus, ben on est obligé de couper et d'évacuer ces troncs.
Comme vous venez de le dire, Geoffrey, il y a le Morvan qui est touché justement par ce stress hydrique. Dans le diagnostic, est-ce qu'il y a d'autres parties du territoire qui supportent des conséquences assez graves avec le dérèglement climatique ?
Alors, ce qu'a montré le diagnostic de vulnérabilité, c'est que globalement, d'abord au niveau national, la Nièvre aura pas plus de répercussions et n'est pas plus vulnérable que beaucoup d'autres territoires, puisque quand on parle de changement climatique, en général et de conséquences, on pense d'abord au risque de submersion quand on est sur une façade littorale, ce qui n'est pas le cas de la Nièvre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément plus vulnérable que d'autres, pour autant on l'est, et on l'est de manière assez homogène, puisque globalement la Nièvre peut être divisée en deux climats. On a un climat continental côté Val-de-Loire, et puis un climat de petite montagne sur le Morvan, et les conséquences que l'on va avoir, principalement le manque d'eau, sont pas suffisantes. Après, on aura des effets très territorialisés. Blandine Delaporte évoquait tout à l'heure le retrait gonflement d'argile. Aujourd'hui, on a identifié dans le cadre de ce diagnostic qui est disponible sur le site internet du département, des zones qui sont relativement plus vulnérables que d'autres à la sécheresse. Après, il faut aller voir par typologie de vulnérabilité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, l'eau va être une ressource de plus en plus rare. On en aura de moins en moins et sur un cycle de l'eau profondément modifié. Et on aura des impacts assez importants sur les personnes, puisque qui dit vague de chaleur, on l'a déjà expérimenté au mois de juin sur une canicule précoce, auront plus de difficultés à trouver des zones de fraîcheur, notamment dans leurs logements qui, dans la Nièvre, sont plutôt dégradés et assez peu confortables en été. Et donc c'est aussi ces changements-là qu'il va falloir engager.
Oui, donc ça touche à peu près tous les corps de métier et les personnes lambda, on va dire les citoyens du territoire.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut rajouter à ce que vient de dire Geoffrey, je pense que c'est aussi que on a une population âgée qui est importante dans ce département. Et donc, forcément, c'est une population qui est plus vulnérable à la chaleur et donc aux périodes de canicule. Surtout, comme le disait Geoffrey, quand on a des appartements ou des maisons qui sont mal isolées. Donc ça c'est une survulnérabilité, en fait.
Ça vient se rajouter.
Voilà, ça vient se rajouter. Ajouter à cela qu'on est en pénurie de professionnels de santé, et donc vous ajoutez une survulnérabilité à la vulnérabilité. Donc tout ça se combine pour que nous, département, qui avons une compétence en matière de solidarité et qui prenons soin des personnes âgées, on essaye de trouver des solutions pour que les personnes les plus vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, les jeunes enfants aussi, on a une compétence en matière de protection maternelle et infantile. Et donc tout cela vient impacter nos propres compétences. C'est aussi pour ça qu'on s'est engagé dans une stratégie d'adaptation au changement climatique. Il suffit pas de regarder l'impact sur les milieux qui va être désastreux, mais sur les personnes et sur les activités économiques et en particulier l'agriculture, mais pas que.
Pas que, oui. Oui. C'est un tout, en fait.
C'est un tout.
Alors, pourquoi adaptation et non atténuation ? Parce que je sais qu'il y a les deux termes qui sont utilisés, mais peut-être qu'on peut peut-être définir déjà les deux et puis expliquer le pourquoi du comment.
Oui, tout à fait. Alors, ce sont effectivement deux notions qui sont utilisées et qui sont toutes les deux nécessaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les opposer. L'atténuation du changement climatique, c'est de lutter contre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui vont contribuer au réchauffement. Ça veut dire que quand on parle d'atténuation du changement climatique, on va agir sur les causes du changement climatique. Quand on va parler d'adaptation au changement climatique, en réalité, on part du principe que les émissions passées de gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'origine humaine vont avoir des effets. Quelles que soient les politiques que l'on met en œuvre aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un phénomène d'inertie climatique. Ça veut dire que la température, on sait qu'à horizon 2050, elle va continuer d'augmenter. Donc tous les efforts que l'on fait sur l'atténuation du changement climatique, ils produiront leurs effets à partir de 2050, en se disant qu'il faut éviter de créer une situation qui devient ingérable. Pour autant, plus 1, plus 1,5, plus 2 degrés à horizon 2050, c'est quelque chose qui est quasiment acté. Et quand on regarde les impacts que cette augmentation de température va avoir, eh ben, c'est l'objet du diagnostic de vulnérabilité. Ces impacts sont nombreux. Et donc l'adaptation, c'est prendre acte que ces impacts sont inévitables et se préparer. c'est quelque part travailler à la résilience du territoire et de ses habitants par rapport à des phénomènes qui sont quasi certains.
Et puis on dit adaptation ou atténuation, mais j'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement parler d'atténuation, simplement parler d'adaptation. Il faut impérativement faire les deux. Et les collectivités étaient plutôt rodées à l'atténuation, avec les plans climat, air énergie, territoriaux, etc. Les communautés de communes connaissent ça par cœur. Les bilans carbone, tout ça. L'adaptation, c'était un peu plus nouveau pour les collectivités. Donc, on sert aussi de cobayes et de modèles, si on peut s'exprimer ainsi.
Dit autrement, plus on atténue le changement climatique, moins on aura à s'adapter demain. Pour autant, il faut quand même se préparer à s'adapter.
Oui, puis s'attendre peut-être des fois au pire, parce que là, on a jusqu'à 2050, mais on n'est jamais sûr de rien. C'est un peu ça le problème. Ça fait quand même déjà quelques années que le département intègre la question climatique et la transition dans ses politiques. Que pouvons nous faire de plus qu'à l'adaptation? On est, comme vous le disiez, assez balbutiement, notamment pour les collectivités public, c'est tout nouveau. Donc, que peut faire le département concrètement?
L'action du département, comme on le disait, c'est d'abord protéger les plus vulnérables, et puis essayer d'être un partenaire des territoires.
Oui, ça c'est important de les accompagner.
Oui, les accompagner, parce qu'effectivement, encore une fois, comme je le disais, ils sont assez au point sur l'atténuation et les plans climat. Mais en revanche, sur l'adaptation, et il y a un gros travail à faire sur le logement, parce que on le disait, le confort d'été, on parle souvent du confort d'hiver. Avoir chaud dans son logement, c'est essentiel en plein hiver, mais être au frais l'été dans son logement, ça aussi c'est important. Et on le disait l'autre jour avec un principal de collège. En fait, les collèges qui ont quand même quelques années
sont un peu vétustes.
Et en fait, ils ont été adaptés. Enfin, ils ont été construits pour protéger les enfants et les tenir au chaud l'hiver. Absolument pas l'été, puisque normalement un collège c'est fermé l'été.
Oui. Alors.
Mais, le problème, c'est que voilà, au mois de juin, on a les premières canicules.
Voilà, donc, c'est ça, parce qu'ils sont encore à l'école. Parce que sinon, avant, c'était pas trop le cas.
Voilà.
On avait des temps à peu près normaux, on va dire.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit arriver les premières canicules fin mai, début juin. Donc là encore, c'est très compliqué.
Donc cette stratégie, il y a trois axes, on ne va pas tous les développer, vous reviendrez de toute façon nous en parler. Et puis, bah oui.
Avec plaisir, c'est vrai que je ne viens pas souvent.
Et puis c'est surtout, c'est aussi que la collectivité devienne exemplaire par rapport à l'adaptation. Ça c'est important.
Oui, parce que montrer l'exemple, c'est pas le meilleur moyen pour convaincre, c'est le seul finalement. Donc voilà, et si nous on s'applique pas ce qu'on préconise aux autres, ça n'aurait pas de sens. Donc bien sûr, il faut qu'on arrive à être exemplaire, et ça veut dire travailler sur justement les collèges par exemple, avoir un plan pour faire en sorte que les collèges soient et que les collégiens soient mieux dans les derniers mois de l'année dans leurs établissements, notamment pour passer les examens. Enfin, franchement, passer les examens quand il fait 30 dans une salle, c'est quand même pas sympathique.
Je crois que les lycéens avaient souffert en 2020,
il faisait
plus de 40 degrés. C'était, ou 2019, je sais plus, mais les trois années l'ont été très chaudes.
Très difficiles.
Donc le soutien des partenaires, le soutien des collectivités, des autres collectivités, s'adapter donc les locaux du département aussi, puis les agents aussi, leur donner peut-être des petites choses à faire dans les bureaux, pas trop mettre la clim quand il y en a, baisser le chauffage l'hiver, c'est plein de petites choses qu'il faut aussi... il faut informer, il faut donner des solutions aussi.
Oui, ouais. Tout à fait. L'action d'exemplarité, elle a plusieurs dimensions. Elle a d'abord une dimension interne, c'est-à-dire comment nous-mêmes nous identifions les conséquences sur notre organisation pour que on offre des conditions de travail et d'accueil à la fois des agents du conseil départemental et des usagers qui viennent se rendre dans des sites d'action médico-sociaux, par exemple, qui sont confortables. Donc après, on a un panel de solutions là-dessus. On peut avoir des projets assez ambitieux et assez coûteux de rénovation énergétique. Mais on peut également agir et penser différemment à partir du moment où on a bien compris ce qui est en jeu. Quand on parle de confort d'été et l'adaptation, c'est simplement peut-être se dire que les bureaux qui sont orientés de manière favorable l'été sont utilisés par les personnes qui restent présentes dans des périodes de congé. C'est aussi bête que ça, ça coûte 0€ et ça offre du confort aux différentes personnes. On a un exemple que l'on cite souvent, qui est celui des consultations PMI, qu'il ne faut pas mettre dans des salles qui sont très exposées, sans rideaux, sans volets, et donc qu'on peut aussi concevoir des réaménagements à l'intérieur de nos bâtiments. Donc l'exemplarité, ça passe par ça. Et puis ça passe par convaincre l'ensemble des professionnels du conseil départemental que le changement climatique va faire évoluer leur métier. Parce que quand on s'occupe de personnes fragiles comme des personnes âgées, évidemment, on ne va pas changer la finalité de la prise en charge, le bien vieillir enivre, mais on va devoir faire face à des conditions climatiques qui sont différentes. Donc l'exemplarité, c'est que toutes les missions, tous les métiers de la collectivité en prennent bien conscience et adaptent ces process.
Et puis c'est aussi, effectivement, tout ça, mais je pense qu'après c'est de l'adaptation aussi avec des horaires différents, décalés, quand il fait très chaud, c'est plein de choses comme ça.
Geoffrey parlait de la protection maternelle et infantile, la PMI. Enfin, il n'y a aucune maman qui a envie de sortir son
à 4h de l'après-midi,
son bout de chou
en plein cagnard
à 4h de l'après-midi, que ce soit en voiture ou à pied. Donc on met pas les consultations de PMI en pleine canicule l'après-midi. Enfin, tout simplement. C'est une question de comportement, d'adaptation, de logique. Enfin. Un peu de bon sens. Et puis là encore, les bureaux, la collègue, elle est en vacances, son bureau, il est orienté au nord, j'aurai moins chaud dans son bureau, je vais m'installer dans son bureau plutôt que le mien qui est orienté sud-ouest, et je vais avoir le soleil toute la journée, tout l'après-midi dans le bureau. Enfin, c'est aussi simple que ça.
Comme vous disiez, c'est du bon sens.
Mais oui.
Et c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps.
Voilà.
C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle explicitement d'adaptation au changement climatique. La canicule de 2003, à titre d'exemple, elle a eu comme conséquence que l'ensemble des organisations se sont dotées de plans canicule, d'horaires décalés, de mesures pour agir sur les comportements, donc les publicités de hydratez-vous quand il fait chaud, faites attention à vos aînés, appelez-les, prenez des nouvelles. Et c'est aussi ça l'adaptation. C'est pour ça que la dimension partenariale, elle est extrêmement importante, parce que on adapte des systèmes et on n'adapte pas, on n'est pas une île dans un océan qui peut s'adapter. C'est vraiment multi-partenaire. Il faut qu'on parle de mobilité, il faut qu'on parle de bâtiments, il faut qu'on parle d'accès à l'eau, il faut qu'on parle d'énergie propre. Et quand on parle de transition écologique, quelque part, c'est ce fil directeur qui va guider nos actions pour se dire qu'on est dans une logique totalement systémique.
Avant de continuer, je vous propose une pause musicale. À tout de suite.
Yeah.
Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours sur BAC FM dans les rendez-vous de la Nièvre. Et ce soir, on vous parle de stratégie d'adaptation au changement climatique. Cette stratégie, c'est aussi la protection de la biodiversité. Et là aussi, le département, ça fait déjà plusieurs décennies qui s'occupe à protéger la biodiversité. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un tout et tout s'enchaîne, en fait. Mmh. Ça fait boule de neige.
C'est-à-dire que la biodiversité, on la met en valeur, on la protège et on la valorise à travers ce qu'on appelle notre politique espace naturel sensible. Dont on a fêté les 30 ans en 2021, donc on a déjà un peu de recul quand même sur les milieux naturels de la Nièvre, mais effectivement avec le changement climatique, les milieux continuent à souffrir de toute façon. Or, ils peuvent aussi nous apporter des bienfaits. Et donc on doit les préserver, puis on doit peut-être aussi s'en inspirer et donc regarder un peu comment fonctionne la nature, et peut-être qu'on peut aussi de temps en temps caler un certain nombre de choses ou de manières de construire, de se déplacer en imitant la nature. Bref, il faut s'inspirer.
Il faut évoluer.
Mais on n'aura pas trop le choix, je crois.
Là, je crois que c'est...
Voilà. Je crois que le GIEC tire la sonnette d'alarme très, très régulièrement. On ne peut plus reculer.
Je pense aussi à d'autres actions que vous mettez en place. C'est aussi les 1000 arbres.
Ouais.
Ça
oui.
Ça fait partie aussi de tout ça.
Parce que quand on plante des arbres, en fait, dans une commune, dans un collège, c'est une manière aussi de sensibiliser les grands et les petits à la biodiversité. Et puis, c'est une manière aussi de tendre une passerelle vers les générations à venir, puisque en général quand vous plantez un arbre, c'est les petits ceux qui vous suivront qui en profiteront, donc voilà, c'est une manière aussi de dire la nature elle demande du temps, Observons-la et ça permet de sensibiliser à cette biodiversité.
Et puis, ça permet aussi de faire de l'ombre l'été quand il
exactement,
fait très
exactement.
Chaud.
Bon, alors après, quand le pommier il est épais oui, comme rien, bon,
il faut attendre
un petit peu avant de se mettre dessous, mais voilà.
Et ça veut dire que la biodiversité, elle est victime quelque part du changement climatique. C'est un des facteurs qui aujourd'hui est les plus déstabilisants. Et donc, on a des migrations d'espèces. Sauf que les arbres,
ils sont plus là,
ils n'ont
forcément.
Ils n'ont pas de pattes, donc ils migrent moins vite. Ils migrent par génération. Mais pour autant, la biodiversité, c'est aussi une réponse face au changement climatique, à la fois sur la question de l'atténuation qu'on évoquait tout à l'heure, puisque la forêt, elle capte et elle séquestre du carbone qui est émis par les activités humaines. Ça veut dire que la préservation de ces puits de carbone, dont la Nièvre est aujourd'hui probablement un territoire exemplaire en France dans sa contribution à cette séquestration, c'est fondamental. De planter des arbres supplémentaires, c'est aussi des leviers qui vont permettre d'en capter plus. Donc ça, c'est sur le volet de l'atténuation. Et sur le volet de l'adaptation, vous l'avez très bien dit, c'est des espaces de fraîcheur. Et ce sont aussi des espaces qui, d'un point de vue de la richesse naturelle, sont extrêmement précieux. Puisque aujourd'hui, ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité sont principalement forestiers, et notamment dans le Morvan.
Ouais, on en revient toujours avec cette problématique dans le Morvan quand même. qui est, oui, parce qu'on la remarque plus facilement, hein, comme vous le disiez, avec les coupes franches rases.
Ouais.
Donc, effectivement. La transition écologique, justement, je voulais y venir parce que le conseil départemental a mis en place aussi un conseil des citoyens en transition.
Oui.
Et je voulais savoir de qui était composé ce conseil départemental et à quoi il sert.
Alors, ce conseil départemental des citoyens en transition, il est issu de deux branches. Il y a deux branches de citoyens en transition. Il y a ceux qui viennent, qui sont des acteurs socio-économiques du territoire, associatifs, etc.
Qui sont investis dans la vie du territoire.
Investis dans la vie du territoire et puis surtout qui ont compris les enjeux de la transition écologique et qui appliquent cette réflexion dans leur quotidien d'associatif, professionnel, personnel, etc. Donc ça, c'était ce que j'ai appelé les citoyens préfigurateurs. J'étais allée moi les rencontrer dans leur entre guillemets dans leur milieu naturel et donc voilà, et je leur avais proposé d'intégrer un petit club de réflexion et puis ils nous ont dit mais en fait il faut élargir le cercle et demander à des citoyens lambda d'intégrer ce club de réflexion. Et donc on a proposé à des volontaires qu'on a ensuite tirés au sort, un par canton, d'intégrer ce conseil départemental des citoyens en transition. À quoi il sert ? Il sert aussi à nous amener des pistes de réflexion sur un certain nombre de nos politiques. D'abord, on les informe de ce qu'on fait et ensuite, ils nous font un retour qui est toujours très constructif. Vraiment, même sur des sujets qui sont pourtant très techniques, très... pas évident.
Ils ont sûrement un autre regard aussi.
Ils ont un regard, moi j'espérais un regard candide. En fait, ils n'ont pas un regard candide du tout. Hein. Ils ont un regard très affûté, au contraire. Certains sont experts dans leur propre domaine. C'est aussi ça qui fait la richesse de ce CDCT. L'avenir nous le dira, mais moi je voudrais élargir encore ce CDCT et à travers l'opération qu'on a menée depuis quelques mois, Imagine la Nièvre, je voudrais que on élargisse véritablement cette réflexion et que on puisse amener beaucoup plus de citoyens à réfléchir avec nous aux politiques de la transition écologique.
Et vous avez déjà fait des choses bien précises avec ce conseil départemental des citoyens.
Oui, on a travaillé sur un certain nombre de sujets. On a travaillé sur l'alimentation, on a travaillé sur la biodiversité, Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, on fait chaque année l'agenda nature, c'est-à-dire des actions qui sont menées en partenariat tout l'été avec, sur les espaces naturels sensibles ou dans des espaces naturels un peu particuliers avec nos partenaires. Et ils nous ont dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une action envers les jardiniers du dimanche, parce qu'en fait
il y a pas mal
de jardiniers du dimanche, jardiniers amateurs, et qui parfois font des erreurs, veulent bien faire et veulent apporter leur contribution à la valorisation et la préservation de la biodiversité, et pour autant font des erreurs. Donc du coup on a voulu mettre des actions en ce sens.
Donc on peut dire que le territoire, si les collectivités, si tout le monde s'y met, on peut vraiment s'adapter au changement climatique.
En tout cas, c'est tout le pari de la démarche. Et vous l'avez dit, ça veut dire que chaque acteur se met en mouvement, qu'il soit particulier, qu'il soit élu de collectivité, technicien, et puis entreprise, évidemment, puisque on est dans des démarches qui sont toutes imbriquées. On travaille à réduire notre empreinte carbone. On étudie et on diagnostique les impacts potentiels du changement climatique pour s'adapter. On met en œuvre des pratiques qui sont plus respectueuses de la biodiversité. Donc tout ça sont des mécaniques qui demandent de bien comprendre les enjeux qui sont complexes et qui demandent d'être accompagnées. Donc c'est le pari du conseil départemental de dire nous travaillons sur notre organisation pour être nous-mêmes exemplaires. Et nous accompagnons à la fois d'autres collectivités qui le souhaitent dans ces éléments de diagnostic pour faire quelque part le chemin que nous avons déjà fait. Et puis surtout, nous sommes à la disposition et très volontaires pour outiller les citoyens, renforcer leur pouvoir d'agir pour qu'eux-mêmes soient acteurs et démultiplier les actions.
Mais l'histoire l'histoire du XXe siècle nous a montré que les Nivernais savaient résister. Que c'était que la Nièvre était une terre de résistance. Alors donc ça peut être une terre de résistance et de résilience. Donc face au changement climatique, il va falloir effectivement être un peu costaud et pouvoir résister. Donc là aussi, il faut qu'on puisse nous par nos actions, par notre exemple, aux côtés des collectivités et des acteurs socio-économiques comme le disait Geoffrey, pouvoir montrer l'exemple et pouvoir armer les habitants et les habitantes de la Nièvre contre le changement climatique.
Puis de toute façon, cette stratégie, elle peut évoluer si l'évolution est plus dramatique que ce qui est annoncé.
Ouais, on voudrait pas.
On n'est pas très pessimiste.
Ouais, on ne sait pas. Bon, oui, elle peut évidemment, elle peut évoluer et elle évoluera en fonction aussi des nécessités. Et de l'actualité et des besoins, et voilà, aujourd'hui on repense aussi nos mobilités, non pas seulement par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par rapport au prix du carburant. Voilà, donc on repense aussi les choses différemment, et donc on se pose de nouvelles questions et on cherche de nouvelles solutions.
Ce qu'il faut noter, c'est que en 2019, quand on a lancé la démarche, on était un peu seul. C'est-à-dire que peu de structures et de collectivités parlaient du sujet de l'adaptation au changement climatique. Trois années plus tard, on peut que se réjouir qu'énormément d'acteurs s'en sont saisis. L'État qui travaillait déjà un petit peu dessus, mais sans véritablement le médiatiser. La région,
ça
plusieurs
évolue.
EPCI, ça évolue. Et on n'a jamais autant parlé d'adaptation au changement climatique que depuis le mois de juin. Où on se rend compte que le changement climatique, c'est pas quelque chose de potentiel, de futur, mais c'est quelque chose qui vient nous frapper dès aujourd'hui. Et donc, c'est de là l'importance d'être dans l'anticipation, en gardant à l'esprit que, quelque part, la bonne adaptation, c'est celle qui ne se voit pas. On n'est pas dans de la mesure tangible de résultats, on est simplement dans ne pas subir des impacts qui seraient dommageables et dramatiques. Donc c'est toute la complexité de mener des politiques sur ce sujet-là.
Donc c'est pour ça que ce serait intéressant de revenir en parler et puis préciser certains points pour nos auditeurs.
Pas de
et
problème.
En plus, on est sur une radio lycéenne et on n'oublie pas que les jeunes, ils sont quand même assez impliqués
mais
avec le changement climatique.
Mais évidemment, ils sont très sensibles à la question et c'est logique.
Alors, il y a d'autres actions, hein, bien sûr, en faveur du climat qui sont menées par votre service, Geoffrey, et en rapport aussi avec cette stratégie d'adaptation au changement climatique. Vous voulez bien nous en parler ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la première étape qu'on a identifiée pour parler de changement climatique, c'est que les personnes en saisissent bien les enjeux. Et donc, pour ce faire, on utilise un outil, un jeu sérieux qui s'appelle la fresque du climat, que l'on développe dans sa version grand public et dans sa version scolaire. Et donc, très concrètement, c'est des mises en situation dans les collèges, auprès de classes de 6e, de 5e, mais ça peut également être mis en place dans les écoles, dans les lycées et dans toute autre structure qu'ils le souhaitent, où l'on réfléchit avec un jeu de cartes à mettre en lien les causes et les conséquences du changement climatique. Donc on part des activités humaines jusqu'à les chaînes de causalité qui sont celles qui sont rappelées dans les rapports du GIEC avec des conséquences dramatiques sur les milieux, les activités humaines. Donc ça, c'était quelque chose qui a été lancé en 2022 et on a déjà une centaine de collégiens qui a pu être sensibilisés avec l'ambition de le déployer encore à plus large échelle l'année scolaire prochaine, donc à partir du mois de septembre, mais également de le déployer dans la collectivité, puisque aujourd'hui, on le disait, convaincre des éléments de diagnostic, c'est la première marche pour ensuite se mettre à l'action. Donc ça fait partie des choses que l'on propose. Après, on a d'autres opérations qui visent à reconnecter quelque part avec l'environnement, avec le vivant. Dans les collèges toujours, nous travaillons sur introduire toujours davantage de biodiversité dans les collèges. Nous travaillons également à ce que les collégiens puissent sortir pour pouvoir aller à la rencontre des espaces naturels, qu'ils soient ordinaires ou remarquables, parce que la biodiversité, c'est avant tout quelque chose d'ordinaire, en tout cas dans la Nièvre, et on peut s'en réjouir encore. Donc voilà des actions très concrètes qui sont menées par le conseil départemental.
Et puis simple à mettre en place.
Simple à mettre en place et qui plaisent surtout, puisque aujourd'hui les retours tant des professeurs que des collégiens qui ont pu bénéficier de ces animations, c'est mais oui, c'est super et allez-y, et il nous en faut plus. Donc c'est l'enjeu maintenant, il va être de répondre à cette attente croissante en restant à la hauteur quelque part de leurs attentes sur le sujet.
Alors moi j'ai eu l'occasion de jouer à la fresque du climat dans sa version grand public avec des agents du département, hein, puisqu'il y a des agents, voilà, c'est une série de moments comme ça où les agents sont sensibilisés au changement climatique. Bien sûr, on sait déjà des choses, hein, oui. Mais on n'a pas conscience de toute cette chaîne de causes-conséquences.
Ça permet de bien comprendre.
Et vraiment, ça c'est assez impressionnant à observer. Véritablement, l'ensemble de la chaîne de conséquences est assez surprenante. Et même si on a conscience déjà de petits morceaux de causes-conséquences, on n'a pas conscience de l'ensemble de la boucle. Et vraiment, ça c'est un moment d'une prise de conscience importante.
Et peut-être pour les auditeurs, dans les autres actions que peut mener le conseil départemental, on organise depuis novembre 2021 des cycles de conférences sur les questions du changement climatique. Donc avec une première conférence qui a eu lieu pendant la COP26 à Glasgow et qui était sur quelque part le choc des données. C'est une conférence que l'on avait appelée électrochoc parce que on envoyait quelque part les rapports du GIEC frontalement aux personnes qui étaient venues l'écouter. On a réitéré l'événement début juin en parlant de sylviculture et de forêt avec des interventions assez croisées et notamment une intervention et une phrase assez marquante du représentant de l'ONF qui disait que à plus 3 degrés, la sylviculture telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'existera évidemment plus et la forêt dans sa forme actuelle n'existera évidemment plus. Donc ça interpelle et plusieurs
voilà, 3 degrés de plus et plus de forêt.
Et plusieurs projets sur le second semestre sur lequel on pourra revenir ultérieurement, mais de travailler sur les questions de changement climatique et de santé, puisque aujourd'hui, ce dont on a tous plus ou moins conscience, c'est que la santé des écosystèmes elle a des impacts sur la santé humaine, le Covid l'a montré, et que quand on parle de santé et de changement climatique, il faut désormais traiter aussi des liens entre la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes, et puis d'agriculture et d'alimentation. Ça, c'est les deux sujets sur lesquels on travaille pour le second semestre.
Donc plein de projets pour cette stratégie.
Oui, ça, on n'en manque pas.
Et puis toujours pour sensibiliser le public, il y a les Mardis du Climat aussi qu'on peut consulter sur le site nièvre.fr.
Oui, tout à fait. Alors les Mardis du Climat, ce sont des publications qui sont faites sur les réseaux sociaux du Conseil départemental avec un renvoi vers des articles de fond qui sont publiés sur notre site internet et qui permettent d'avoir une information fiable sur le changement climatique. Donc on a par exemple produit des synthèses des différents rapports du GIEC de manière à ce que chaque citoyen puisse s'en saisir sans forcément aller voir des rapports qui sont assez denses et assez complexes. On délivre également de l'information généraliste sur ce que fait le département de manière très concrète avec des propositions de relais. Donc, par exemple, on a expliqué ce qu'était la fresque du climat en proposant à tout un chacun de nous contacter s'il souhaite organiser une fresque, ce qu'on fera bien volontiers dans les prochaines semaines.
Ça peut être intéressant en plus.
Bah, c'est ce qui nous semblait aussi.
Et puis on n'oublie pas évidemment l'agenda nature dont vous parliez tout à l'heure, Blandine.
Oui, ça c'est tout l'été, tout l'automne. Voilà. Il y a des animations sur les espaces naturels sensibles. Donc pour les petits, pour les grands, pour les touristes, pour les Nivernais et les Nivernaises. Donc n'hésitez pas, dans tous les bons offices de tourisme et sur le site du département, normalement, vous retrouvez l'agenda nature.
Et puis un concours photo qui a été lancé l'hiver dernier pour les 30 ans des ENS, qui est toujours d'actualité, hein, puisque je crois qu'il se termine le 31 octobre.
C'est ça.
Donc n'hésitez pas, pareil, hein, toujours sur le site internet nièvre.fr, où là on retrouve
le règlement,
la fiche d'inscription, voilà. Et puis les différents thèmes qu'on peut photographier. Est-ce que vous vouliez développer un autre point avant de se quitter ?
Ben, comme de toute façon on va revenir, on va pas développer trop de points. Simplement, je crois que, enfin, on a pu en tout cas peut-être démontrer qu'il y avait pas mal de boulot et qu'on s'y attelle sérieusement.
Ben merci en tout cas Blandine Delaporte et Geoffrey Darmancier d'avoir répondu à nos questions et puis je vous dis à bientôt du coup.
Ben du coup, à bientôt.
Donc la stratégie d'adaptation au changement climatique, elle est consultable sur le site nièvre.fr, on l'a dit tout à l'heure, le concours photo, l'agenda nature, enfin les conférences du climat quand il y en aura d'autres qui vont débuter je pense dès le premier trimestre de la rentrée, les Mardis du climat, enfin on peut déjà trouvé pas mal d'informations pour comprendre aussi ce qui va se passer d'ici 2050 et puis surtout pour comprendre ce que va mettre en place aussi le département pour s'adapter au changement climatique. Les rendez-vous de la Nièvre sont à présent terminés. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée sur BAC FM. Au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.